Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, le chef du contre-espionnage met en garde contre la désinformation russe en lien avec l'accord de défense tchéco-américain. L'Union européenne doit se préparer à une guerre froide avec la Russie selon le chef de la diplomatie tchèque. Et puis, pas de film russe ni chinois au Festival du film de Karlovy Vary. Le chef du service de contre-espionnage, Mikhail Khodorkovsky, a mis en garde lundi contre la désinformation russe, notamment contre de possibles tentatives de torpiller l'approbation de l'accord de défense tchéco-américain. On peut supposer que les Russes utiliseront tous leurs moyens, y compris la désinformation dite dure, même de nature personnelle ou intime, pour empêcher que cet accord soit approuvé, a-t-il précisé. Signé à Washington mardi dernier, l'accord tchéco-américain de coopération définit notamment les conditions auxquelles des soldats américains pourront séjourner en Tchéquie en cas de besoin. Il doit être encore formellement approuvé par les députés tchèques. Les activités des services de renseignement russes sont plus dangereuses que celles des services chinois, relevé Mikhail Khodorkovsky lors d'une conférence sur la sécurité intérieure et la résilience de l'État à la chambre basse du Parlement. Dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les opérations russes sont ouvertement agressives, a-t-il encore ajouté. L'impérialisme russe constituera un problème pour les décennies à venir et l'Union européenne doit se préparer à mener une guerre froide contre la Russie afin de limiter son influence, a déclaré lundi le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavský au forum Globsec à Bratislava. La Russie est un pays qui ne sait pas où il commence et où il finit, a-t-il déclaré en reprenant les mots de l'ancien président Václav Havel, et nous devons être capables de l'affronter. Nous devons disposer de capacités de défense appropriées et d'un cadre de sécurité solide, a poursuivi Jan Lipavský. Écrivain, traducteur et ancien diplomate, Mikhail Jantowski a annoncé lundi qu'il quittait son poste de directeur de la bibliothèque Václav Havel au 1er juin. Depuis septembre 2015, il dirigeait cette institution qui s'occupe de l'héritage intellectuel, littéraire et politique du dramaturge et ancien président Václav Havel. Il n'a pas précisé qui le remplacerait à la tête de la bibliothèque. À la fin du mois d'avril, le nombre de personnes ayant contracté la gale en Tchéquie s'est élevé à 3462, soit un nombre record depuis 20 ans. Le nombre de cas de gale enregistrés depuis le début de l'année est supérieur à celui des trois dernières années avant l'épidémie de Covid-19, selon les données de l'Institut national de santé. Le nombre de cas avait déjà augmenté de manière significative l'année dernière, passant à 5276, mais le nombre de cas recensés cette année jusqu'à la fin du mois d'avril est deux fois plus élevé qu'en 2022. L'architecte Philippe Pšenčík a reçu lundi le prix Olga Havlova pour ses efforts visant à aider à construire des logements sans barrière destinés aux personnes handicapées, et ce, malgré le fait qu'il souffre lui-même d'un handicap. La fondation Olga Havlova a également remis un prix à Hejman Wolf, fondateur de l'association Cesta Zasnem, qui aide les personnes handicapées à mener une vie active et à s'intégrer en société. Il n'y aura ni film russe ni chinois à la 57e édition du Festival du film de Karlovy Vary, qui se tiendra du 30 juin au 8 juillet et proposera 31 films dans son programme principal. La compétition principale comptera finalement 11 films au lieu de 12 initialement, car les producteurs du long métrage chinois ont dû retirer leurs films à la demande du gouvernement chinois. Le retrait du film chinois nous a été expliqué par la détérioration des relations entre la Chine et la Tchéquie, de sorte qu'aucun film chinois ne peut être projeté en Tchéquie, y compris au festival de Karlovy Vary, a déclaré le directeur artistique Karel Hoch. Le public ne verra pas non plus de film russe cette année, a-t-il précisé, et puis deux films tchèques sont en compétition pour cette 57e édition. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Camélas, grand soleil au programme et température très agréable autour de 24 degrés pour les moyennes maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez avec nous tout de suite, la suite du programme en compagnie d'Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Anna pour les news. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la menace russe au cœur de nombreuses préoccupations de responsables tchèques au niveau politique et militaire. La participation d'Andrej Babiš à une conférence des conservateurs et ultra-conservateurs à Budapest qui ne passe pas dans les rangs de son parti européen. Et puis, dans la dernière partie de cette émission, nous parlerons du mouvement des enseignants des universités tchèques qui protestent contre leurs conditions salariales. La menace russe est au cœur de nombreuses préoccupations en Tchéquie ces derniers jours, tandis que selon le chef d'état-major de l'armée tchèque, une guerre entre la Russie et l'OTAN est un scénario tout à fait possible. Le chef du service de contre-espionnage a lui prévenu que la Russie mettrait tous les moyens en œuvre pour empêcher l'approbation par le Parlement de l'accord tchéco-américain de coopération en matière de défense signé à Washington la semaine dernière. Des détails, c'est avec Guillaume Narguet.
En République tchèque, les violons ne sont peut-être pas toujours parfaitement accordés. Tandis que le ministre des Affaires étrangères, Jan Lipavský, qui participait lundi à Bratislava à la conférence internationale sur la sécurité GlobSec, a appelé l'Union européenne à se préparer à une longue guerre froide avec la Russie en raison de sa vision impérialiste du monde, c'est bien l'éventualité d'une guerre chaude et, je cite, du pire scénario pour nous que le chef de l'état-major de l'armée tchèque avait lui évoqué un peu plus tôt dans la journée. Invité à s'exprimer devant les députés, le général Karel Žehka a ainsi déclaré qu'une guerre entre la Russie et l'OTAN n'était, je cite, pas impossible, elle est possible. Un scénario auquel la République tchèque, qui s'apprête à effectuer d'importants investissements dans ses armées et son matériel de défense, doit donc se tenir prête car, je cite, si un conflit de haute intensité avec un adversaire technologiquement avancé devait éclater, la République tchèque y participerait dès les premiers instants, a-t-il encore averti, tout en soulignant que la Russie était, je cite encore, aujourd'hui sur une trajectoire de conflit avec l'Alliance, fin de citation. Au-delà de la diversité de ces déclarations et du caractère donc plus ou moins chaud ou froid que pourrait prendre cet éventuel conflit, il est néanmoins un point sur lequel tout le monde s'accorde à Prague. La Russie reste plus que jamais considérée comme une menace sérieuse, non seulement pour la sécurité de la République tchèque, mais aussi plus généralement de l'ensemble du continent, et ce, comme l'a confirmé le chef de la diplomatie qui a déclaré, on va l'entendre, que la Russie représentera un danger pendant encore de longues années, et ce même si le conflit en Ukraine ne devait plus traverser de phases de combat intenses.
Rusko bude představovat nebezpečí po mnoho dalších let, i když konflikt na Ukrajině třeba nebude procházet žádnou žavou fází.
Expliquant que cette guerre ne se résume pas à Poutine et qu'elle relève davantage de l'impérialisme russe, Jan Lipavský s'est aussi inspiré d'une pensée de l'ancien président tchèque Václav Havel en affirmant, je cite, que la Russie ne sait pas où sont ses frontières. Nous devons être prêts à contrer l'influence de la Russie et surtout, nous devons protéger l'Europe de l'impérialisme russe, a-t-il encore insisté. Une lutte qui ne s'arrête d'ailleurs pas aux frontières de la Russie ou de l'Ukraine, selon le chef du BIS, le service de contre-espionnage. S'exprimant lui aussi devant les députés lundi, soit 6 jours après la signature à Washington de l'accord de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la République tchèque, Michal Koudelka a mis en garde les parlementaires. Alors que le document en question, qui définit notamment les conditions auxquelles des soldats américains pourront séjourner sur le territoire tchèque en cas de besoin, doit encore être approuvé par la Chambre des députés et le Sénat, Michal Koudelka a prévenu l'assistance, je cite, que les activités des services de renseignement russes étaient encore plus dangereuses que celles des services chinois. Fin de citation. On peut supposer que les Russes utiliseront tous les moyens dont ils disposent, y compris la désinformation dure, même de nature personnelle et intime, la 5e colonne dans notre pays, et ainsi de suite, pour empêcher l'approbation de cet accord, a encore déclaré Michal Koudelka.
La participation début mai d'Andrei Babich à la CPAC, la Conservative Political Action Conference de Budapest, a fait grincer des dents jusque dans les rangs du parti ALDE, dont son mouvement ANO fait partie à l'échelon européen. Les opinions généralement exprimées lors des événements de la CPAC ne reflètent en aucun cas les valeurs fondamentales du parti ALDE et de ses membres. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué publié le 28 mai à Bruxelles par cette Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, était le principal orateur lors de ce meeting de Budapest qui réunissait divers profils de l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, au chef du Rassemblement national français Jordan Bardella, en passant par l'ancien Premier ministre slovène, et donc Andrej Babiš, présenté, je cite, comme un entrepreneur à succès et un leader conservateur. Éric Maurice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Schuman. Alors, comment est-ce que vous voyez ce nouvel épisode dans la trajectoire, si on peut dire ça comme ça, de l'ancien chef du gouvernement tchèque?
Je pense que l'on peut dire que ça entérine une évolution qu'on a pu observer depuis plusieurs années, y compris quand Andrei Babich était Premier ministre. C'est qu'il s'est éloigné depuis longtemps des principes et des valeurs qui forment ce parti ALDE qui se traduit par un groupe qui s'appelle Renew au Parlement européen. Et évidemment, ça fait longtemps qu'Andrei Babich était un peu marginalisé dans ce parti et dans ce groupe, même s'il dispose de plusieurs députés européens influents. Mais voilà, on sentait depuis longtemps qu'il n'était plus au centre du jeu dans ce parti et dans ce groupe parlementaire et qu'il était très éloigné des valeurs. Donc aujourd'hui, c'est une confirmation de ce qu'est devenu politiquement Andrei Babich.
C'est vrai que paradoxalement, les députés européens qui étaient issus du mouvement ANO d'Andrei Babich s'en sortaient plutôt pas mal dans l'enceinte du Parlement et au sein de Renew. Là, cela semble quand même marquer une certaine rupture.
Oui, et je crois même que lors des dernières élections européennes en 2019, on se posait déjà quelques questions sur le positionnement du Premier ministre lui-même et des députés, surtout députés ES, qui représentaient le mouvement ANO au Parlement européen, notamment, je pensais à Dita Sharantsova ou Madame Diabalova. Qui sont plutôt influentes, qui ont plutôt une image positive. Et puis on peut aussi citer à la Commission européenne quand même Věra Jourová, qui est quand même une des principales commissaires européennes et qui à l'origine aussi est du mouvement ANO. Mais ça fait très longtemps qu'on voit bien qu'Andrei Babich n'a plus grand chose à voir politiquement avec celles qui étaient censées être ses représentantes à Bruxelles.
C'est une évolution qu'on sentait venir, ce rapprochement de la mouvance dans le sillon de Viktor Orban.
Oui, alors on a bien observé ces dernières années, alors on peut mettre de côté les affaires de soupçons de conflits d'intérêts, mais on voit bien que le positionnement européen d'Andrei Babich a toujours été assez éloigné de celui du groupe centriste. Il y avait aussi ses attaques contre la presse, le discours populiste, y compris les positions politiques sur la question de l'immigration. Tout cela le rapprochait dans les faits plutôt de Viktor Orban que d'Emmanuel Macron, voire du leader historique de ce parti ALDE, Guy Verhofstadt, hein, ancien premier ministre belge. Donc qu'il aille à ce congrès à Budapest organisé par la Fidesz de Viktor Orban, c'est une conséquence logique de cette évolution. Et encore une fois, ça confirme ce que l'on sentait depuis quelques années. Alors aujourd'hui, il n'est plus premier ministre. Il a échoué à devenir président de la République de Tchéquie. Peut-être qu'il se sent plus les mains libres, qu'il n'a pas ménagé ses alliés ou anciens alliés politiques, et il essaye peut-être, dans l'optique des élections européennes de l'année prochaine, de trouver de nouveaux alliés et d'essayer de se faire porter par cette vague nationaliste, eurosceptique que l'on peut sentir dans certains pays. Ce serait à voir de plus près avec la situation politique en Tchéquie. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'avec le gouvernement actuel et surtout l'élection de Petr Pavel, il y a quand même une évolution dans le climat politique en Tchéquie et je ne suis pas sûr que ce soit très favorable à ses ambitions.
Andrej Babiš s'est en tout cas défendu ce lundi dans la presse tchèque en affirmant que ce communiqué du parti ALDE émanait à l'origine d'un petit mouvement négligeable d'opposition hongroise. Est-ce que ça vous paraît plausible ?
Oui, plausible. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que je crois que c'est le mouvement Momentum, hein, hongrois, qui est représenté dans le groupe Renew au Parlement européen. Et puisqu'on parlait des valeurs, c'est vrai que ce mouvement d'opposition hongrois, comme les représentants polonais au sein du parti ALDE, sont quand même représentants justement de ce combat pour les valeurs européennes, pour l'état de droit qui est porté par ce parti. Donc que ce mouvement hongrois soit écouté au sein de son parti politique, vu le contexte politique en Hongrie, c'est pas anormal, c'est pas inattendu, et que le parti réagisse parce que un membre, puisque Andrei Babich et Anno sont encore membres d'ALDE, qu'un membre d'ALDE se rapproche de Viktor Orban, qui est l'adversaire politique des représentants hongrois de Momentum au sein d'ALDE, c'est normal. C'est la vie du parti qui défend non seulement ses valeurs, mais aussi les siens. Donc c'est probable et je dirais c'est normal.
Éric Maurice, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau de Bruxelles de la Fondation Schuman. Bonne journée à Bruxelles. Suite du programme francophone de Radio Prague International. Avant de rejoindre sa collègue Daniela Tinkova la semaine dernière dans nos studios, Andrzej Schwetz assistait à une réunion de crise aux côtés d'autres professeurs de la faculté de lettres de l'université Charles. La veille avait eu lieu l'allocution de Mikuláš Bek, le nouveau ministre de l'Éducation, et dans son discours, pas un mot n'avait été prononcé sur le sous-financement de l'enseignement supérieur. Pourtant, Elena Weder, professeurs et étudiants, s'en indignent depuis des mois.
Le 28 mars dernier a eu lieu à Prague la manifestation « L'heure de vérité ». Plus de 1300 personnes étaient rassemblées sur la place Jan Palach afin de protester contre l'état alarmant des sciences humaines en Tchéquie. Effectivement, l'enchaînement depuis des années de coupes budgétaires et de réformes néolibérales n'a eu pour effet que de plonger ces disciplines dans une grande précarité. Daniela Tinkova, professeur d'histoire et membre de l'équipe de mobilisation.
Depuis les années 90, je crois que nos hommes politiques et nos économistes ont toujours privilégié les domaines où le profit était immédiat. Et l'enseignement, l'éducation, ça concerne aussi l'éducation primaire ou secondaire. Ce sont des domaines qui n'apportent pas de profit qu'on voit tout de suite, le profit économique. Et donc, ce sont des domaines qui étaient vraiment abandonnés depuis 30 ans. Donc, c'est pas une nouveauté.
Et la situation est particulièrement critique au sein de l'Université Charles de Prague. L'une des premières universités au nord des Alpes et à l'est du Rhin, fondée en 1348, est un établissement public. Cela signifie que son bon fonctionnement dépend des subventions de l'État. Pourtant, celle-ci dégringole depuis des années. Si en 2010, le financement de l'enseignement supérieur représentait 0,6% du PIB tchèque, il ne s'élève plus qu'à 0,45% aujourd'hui. Ce chiffre est donc bien au-dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, dont les moyens consacrés à l'université tournent autour d'1% de leur PIB. À ce sous-financement étatique s'ajoute le fait qu'au sein de l'université Charles, toutes les facultés ne font pas jeu égal. Certaines disciplines sont perçues comme plus importantes que d'autres. Les sciences dures, médecine, informatique, récoltent davantage de financement que les humanités, lettres, sciences sociales. Ceci est dû à la façon dont le Sénat académique de l'université répartit les moyens entre les facultés. Pour cela, cet organe se base, encore, sur des réformes passées il y a 30 ans. Daniela Tinkova.
La plus importante dont on parle le plus, c'est que un certain chiffre qui a été fixé dans les années 90 qui évalue en fait les frais de matériel à différentes disciplines. Donc on a évalué par exemple la médecine ou les sciences techniques comme plus chères que les sciences humaines par rapport au matériel. Et ça a eu répercussions aussi au salaire, puisque les budgets ont commencé à différer d'une manière vraiment dramatique. Mais il y a aussi d'autres raisons. Je crois que les facultés des sciences humaines n'ont pas tellement de problèmes à tenir les gens à poste, tandis que les informaticiens, les médecins sont des postes qui quand même ont des équivalents beaucoup mieux payés ailleurs. Et donc, si la faculté d'informatique veut que les professeurs restent là et ne partent pas dans les entreprises privées, donc il faut qu'ils les payent. Les facultés de médecine, c'est la même chose. Tandis que quand même, dans nos domaines, il n'y a pas tellement d'équivalent d'un travail mieux payé dans les musées, dans les écoles secondaires ou primaires. Ce n'est pas une concurrence.
Suivant les recommandations de la commission des recteurs des universités tchèques, Česká konference rektorů, le mouvement L'heure de la vérité demande tout de même à l'État 10 milliards de couronnes, 415 millions d'euros. Daniela Tinkova.
Il faut dire que nous ne sommes pas les seuls à participer à ce mouvement de protestation. Ce n'est pas seulement un mouvement d'en bas. C'est aussi un résultat des entretiens entre les représentants des recteurs en fait, des universités et des doyens des facultés de lettres et des humanités qui sont en rapport avec les représentants du gouvernement et du ministère de l'Éducation. Donc, en fait, ce qui est aussi important, c'est que ces protestations et ces demandes sur deux niveaux importants. Au moment de notre protestation du 28 mars, il y avait des entretiens entre les représentants des universités et le ministère de l'Éducation. Et à ce moment-là, on avait l'impression d'avoir au moins une promesse d'une possible dotation de 900 millions de couronnes pour des universités à ce moment-là. Mais au bout de 3 semaines après cette protestation, le ministre de l'Éducation nationale a démissionné Et ce poste important a changé de personne. Donc à ce moment-là, la situation a brutalement changé.
Pour remédier à la situation, des alternatives comme l'imposition de frais de scolarité ou l'aménagement de prêts étudiants ont été évoquées par certains économistes. Mais cela remettrait alors en cause le modèle actuel d'université publique et gratuite. Andrei Schwetz.
Nous avons invité la rectrice de l'université Charles à notre sénat académique jeudi dernier. Elle nous a finalement proposé très peu de choses concrètes pour améliorer notre situation en redistribuant l'argent qui arrive à l'université Charles de sorte telle qu'il soit dédié aussi de façon plus importante aux facultés de lettres qui ne reçoivent qu'une partie très faible. Elle nous a incité à faire de sorte par notre propre initiative que notre salaire puisse augmenter en nous proposant notamment d'introduire de nouveaux programmes en anglais destinés aux étrangers qui vont payer les frais de scolarité assez importants de sorte telle que le budget de notre faculté va augmenter et nous aurons même suffisamment d'argent pour l'enseignement.
Scandalisés par ces mesures aux allures d'autofinancement, les organisateurs de l'heure de vérité cherchent donc à fédérer autour de leur cause. À l'extérieur de l'université, par des manifestations, et à l'intérieur, en réaffirmant l'importance des syndicats. Bien que peu de personnes y soient affiliées dans les universités tchèques, cela a augmenté de manière exponentielle cette dernière année, traduisant peut-être une prise de conscience de la gravité de la situation. Andrei Schwetz.
Maintenant, nous avons 150 membres du syndicat à la faculté de lettres, ce qui est le double par rapport à la situation il y a un an. Parce que pour la première fois, disons que les enseignants, leur situation est devenue tellement inacceptable, à la fois à cause de l'inflation et à cause de la baisse même de leur salaire, qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Jusque-là, jusqu'il y a un an, beaucoup d'enseignants ont pensé que leurs bas salaires sont le prix à payer pour pouvoir dédier leur vie à la discipline qui leur est tellement chère, que c'est finalement un privilège de pouvoir enseigner à la faculté de lettres de l'université Charles la matière qu'on aime tant. C'est seulement au moment où ce salaire indigne ne permet plus de vivre de façon même modeste à Prague, que finalement les enseignants ont pris le courage de parler de cette condition honteuse à laquelle ils sont exposés depuis très longtemps. Et finalement aussi c'est un espoir pour qu'ils puissent comprendre le rôle des syndicats qui, il faut le dire, est très sous-valorisé en République tchèque.
Le statut particulier qu'occupe l'université en Tchéquie rend la situation encore plus complexe. Depuis la réforme de 1998 actant la séparation de l'État et des universités, les pouvoirs publics ont en effet tendance à se dédouaner des affaires concernant l'enseignement supérieur, estimant ainsi que les inégalités de salaire ne relèvent pas de leur domaine. Daniela Tinkova.
Les universités ont en certaine sorte déclaré une indépendance de l'État. Elles ont voulu avoir un chapitre spécial dans le budget national, en espérant qu'elles seront dans une situation meilleure. Parce que c'était à l'époque vraiment des réformes néolibérales. Et les universités ont espéré de pouvoir améliorer leur budget en étant plus indépendantes par rapport à l'État. Donc aujourd'hui, il y a une grande différence en fait entre les universités, même des universités régionales qui ont pu accéder à certains projets de développement dédiés aux régions, etc., etc. Et la faculté des lettres, par exemple, à Prague, qui n'a jamais eu l'accès à ce genre de procès. Et donc, il y a cette indépendance des universités qui leur a donné une grande autonomie, mais qui aussi a empêché d'accéder à l'État, à intervenir dans les affaires intérieures.
Andrei Schwetz, professeur de philosophie, met la situation tchèque en perspective avec celle de la France qu'il connaît bien.
Peut-être la comparaison avec la France. En France, les professeurs et les enseignants des universités sont des fonctionnaires publics. Donc c'est l'État qui est nécessairement engagé à payer leur salaire. Et une telle différence de salaire telle qu'elle existe en République tchèque, c'est impensable en France, parce que quelqu'un qui est fonctionnaire de l'État ne peut pas pour le même travail toucher le double de son collègue dans une autre faculté. Alors que cette autonomie de l'université qui décide par le truchement de sénat académique dans lequel les facultés les mieux subventionnées sont au détriment finalement de notre situation financière à la faculté de lettres.
Faute d'être entendus, les partisans du mouvement L'Heure de Vérité devraient ainsi organiser d'autres actions dans les mois qui viennent, lors de la prochaine rentrée universitaire, par exemple.
Et c'est déjà la fin du programme francophone de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. Vous le savez, pour retrouver l'actualité tchèque en français, c'est sur notre compte Twitter, @radioprague_fr, sinon également sur Facebook et d'autres réseaux sociaux comme Instagram. Sinon, on se retrouve demain, même heure, même fréquence. Ahoy!